Imaginons un instant la meilleure chanson du monde. Tu sais, celle qui donne instantanément envie de taper du pied, qui accroche un sourire sur le visage, tout de suite.
Oh oui, le genre de morceau qu'on met à fond dans la voiture.
Exactement. Les 5 premières minutes, c'est génial, c'est magique. Mais imaginons que cette même chanson tourne en boucle. 6 heures par jour.
Aïe.
Tous les jours. Pendant 30 ans. Bah, la mélodie joyeuse, elle se transforme très très vite en une véritable torture psychologique. Et ça, en fait, c'est exactement le nœud du problème qu'on explore aujourd'hui dans notre plongée.
Et c'est une sacrée bataille sonore qu'on va décortiquer, ouais.
Complètement. Une bataille urbaine, humaine, qui déchire en ce moment même l'hypercentre piétonnier de Rennes, en Bretagne. Parce que, d'un côté, on a cette culture vibrante, historique, des artistes de rue, cette âme bohème qui fait tout le charme des vieilles villes.
Mmh, c'est vrai.
Et de l'autre, on a le droit fondamental, mais qui est souvent très silencieux, à la tranquillité publique.
C'est ça. Et le conflit est d'autant plus fascinant qu'il nous force vraiment à regarder au-delà des apparences, tu vois. Dans les sources du jour, on a brassé plein de choses, des articles de la presse locale, un arrêté municipal qui a mis le feu aux poudres, des pétitions en ligne hyper enflammées.
Ouais, on a vraiment tout épluché.
Tombé dans le piège du conte de fées urbain, quoi. On adore l'idée du méchant maire technocrate qui s'en prend aux gentils troubadours opprimés. Mais la gestion d'une ville moderne, ça marche pas sur ce schéma binaire.
Bon, allez, décortiquons un peu tout ça. Notre mission pour cette exploration aujourd'hui, c'est de comprendre les mécanismes réels du partage de l'espace public. Et pour bien le faire, on va devoir faire un effort qui est assez inhabituel.
C'est-à-dire ?
On va adopter le point de vue qui est souvent complètement ignoré, celui des riverains et des commerçants.
Ah oui, ceux qui subissent, enfin, qui vivent cette bande-son au quotidien.
C'est ça, de 8h du matin jusqu'au soir. Mais avant d'arriver sous leurs fenêtres, il faut qu'on plante le décor. Et ce décor, bah, il est dominé par un personnage central. Rodrigue Payès.
Le fameux Rodrigue.
Voilà. En lisant les documents, on capte très vite que c'est pas juste un étudiant qui gratte la guitare pendant ses vacances pour se faire 2 ou 3 euros. C'est une institution, le gars.
Bah, le terme est vraiment pas trop fort, hein. Les archives montrent qu'il est là depuis 1992 ou 1993. Cet homme fait littéralement partie du paysage de la rue Le Bastard et du marché des Lys, à Rennes. 30 ans de présence continue.
30 ans ! C'est fou quand on y pense.
C'est énorme. Et visuellement, sa constance est juste impressionnante. C'est toujours une chaise en bois placée exactement au même endroit stratégique, une Varus bretonne couleur brique qui lui sert presque d'uniforme de travail et un pantalon qui change jamais.
Un vrai repère visuel, quoi.
Totalement. Et musicalement, il incarne une espèce de nostalgie très rassurante. Il fait de la chanson française pure et dure. Du Renault, du Brassens, du Dutronc.
Et ça, ça donne l'illusion aux passants que la ville ne change jamais, en fait.
C'est exactement ça.
Sauf que, bah, la ville change. Et surtout, les règles changent. Le 4 mai 2026, la mairie de Rennes a lâché une sorte de petite bombe administrative dans le milieu artistique local.
L'arrêté municipal.
Voilà, un nouvel arrêté qui encadre drastiquement les spectacles de rue. Et en parcourant le texte, j'ai noté 2 contraintes majeures. Déjà, premièrement, un artiste peut plus jouer qu'une heure maximum, sur un même emplacement.
Mmh, c'est la règle de rotation.
Et ensuite, et c'est là que ça devient mathématiquement super compliqué pour un habitué, il est carrément interdit de revenir sur ce spot dans la même journée. L'artiste doit se déplacer d'au moins 200 mètres pour rejouer.
Alors qu'avant, la distance n'était que de 100 mètres.
C'est ça. Et sur le papier, ça a l'air d'un simple petit ajustement technique, une broutille. Mais pour quelqu'un qui squatte le même mètre carré depuis 3 décennies, c'est perçu comme une déclaration de guerre.
Oui. Et le passage de 100 à 200 mètres, c'est particulièrement révélateur de la réalité acoustique d'un centre-ville historique, en fait. Faut bien s'imaginer, 100 mètres dans une rue étroite bordée de hauts bâtiments en pierre, bah c'est rien du tout.
Ouais, le son résonne de partout.
La réalité cherche à créer une vraie rupture spatiale et sonore.
Mais évidemment, pour notre musicien, cette mesure, elle est vue comme un ciblage hyper chirurgical.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Il s'en cache même pas du tout dans la presse locale. Il affirme texto, je cite, « C'est un texte qui me vise ». On le sent profondément blessé, en fait, mais aussi super inquiète pour sa survie financière.
Bah oui, son modèle économique repose là-dessus.
Totalement. Il explique que pour gagner sa vie avec les dons des passants, il faut être là où le flux de piétons est à son maximum. Donc s'il doit quitter la rue Le Bastard après une petite heure, bah, il perd toute sa rentabilité.
Il a même sorti l'argument de la gentrification galopante, accusant la ville de vouloir aseptiser les rues.
Ouais. Et sa stratégie de défense, elle a fonctionné à merveille. Il a lancé une pétition en ligne et bam, ça a rapidement frôlé les 5000 signatures. Les commentaires de soutien pleuvent de partout, ça parle de poésie, d'âme de la ville, de résistance face au béton froid.
C'est un réflexe sociologique très classique, ça. Le passant, il valorise l'irrégularité, le folklore, tu vois. Tout ce qui brise un peu la monotonie de son trajet entre deux magasins.
C'est rafraîchissant pour eux, quoi.
Voilà. Et signer une pétition pour sauver un chanteur de rue, c'est un acte hyper facile, presque romantique. Ça coûte absolument rien aux signataires.
Mais attends, 5000 signatures pour une ville de la taille de Rennes, c'est un capital sympathie énorme. Si tout le monde l'adore à ce point-là, pourquoi est-ce que la mairie prendrait le risque politique de l'interdire, ou du moins de le contraindre autant? C'est un suicide électoral, ce truc.
Bah, c'est là qu'on touche au cœur du problème. Il y a une pièce du puzzle qui nous manque quand on écoute juste l'histoire du gentil artiste chassé par l'administration.
Et c'est quoi cette pièce manquante?
C'est la notion de temporalité. Ces 5000 signataires, ils ont tous une caractéristique fondamentale en commun. Ils sont en mouvement.
Ah, ok.
Ils traversent la rue, ils entendent un bout de Mistral gagnant, ils ressentent une petite bouffée de nostalgie, ils lâchent éventuellement une pièce de 2 euros et pouf, ils disparaissent. Leur expérience sonore à eux, elle dure quoi, 3 minutes.
C'est juste un échantillon gratuit en fait.
Exactement, c'est l'échantillon gratuit. Mais pour comprendre l'arrêté municipal, il faut quitter le niveau de la rue, lever les yeux et regarder les fenêtres des premiers et deuxièmes étages. Il faut vraiment entrer dans l'intimité de ceux qui sont statiques.
Eh ben, c'est là qu'on bascule vraiment. On quitte la belle carte postale pour entrer dans l'envers du décor sonore. Et quand on s'imprègne des témoignages des riverains et des commerçants qu'on a trouvés dans les sources, l'ambiance n'a plus rien de romantique.
Ah non, là c'est la douche froide.
Et ce qui est fou, c'est que le rejet n'importe pas du tout sur l'art en lui-même. Personne ne milite contre Georges Brassens. Les gens n'ont rien contre la chanson française.
Non, le véritable ennemi ici, c'est la récurrence. L'oreille humaine, elle est faite pour ignorer le bruit constant, comme le trafic automobile, tu sais, ce fameux bruit blanc.
Ouais, le cerveau le filtre.
Voilà, le cerveau filtre. Mais il ne peut pas ignorer une mélodie ou des paroles, et encore moins dans sa propre langue. Il cherche sans cesse à anticiper la rime suivante. Et il y a un résident qui souligne un détail technique ravageur dans l'une des plaintes officielles.
Lequel ?
Il explique que le répertoire de ce chanteur, bah, malgré ses 30 ans de carrière, il tourne en boucle au bout d'une heure environ.
Ah oui, la boucle est bouclée, littéralement. Donc, s'il reste 6 heures d'affilée sur le même pavé, avec un répertoire d'une seule petite heure...
Bah, ça donne 6 représentations identiques, mot pour mot, accord pour accord, chaque jour de la semaine. C'est ce que la médecine du travail appelle la fatigue auditive et cognitive.
6 fois la même setlist par jour. Faut être solide mentalement.
Et ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont ce petit micro-conflit de quartier percute de plein fouet une mutation sociétale massive.
Tu parles de la redéfinition de l'espace domestique post-pandémie, c'est ça?
Exactement.
Le télétravail, c'est le facteur X de toute cette histoire.
L'appartement du centre-ville, qui était totalement vide la journée il y a 10 ans, bah, c'est devenu un bureau permanent. Et c'est une dynamique qu'on oublie systématiquement quand on parle d'animation urbaine.
Complètement. Avant 2020, les résidents y partaient à 8h et y rentraient à 18h. Le chanteur de rue y jouait pour une foule de chalands.
Il dérangeait personne dans les étages vu qu'il n'y avait personne. Voilà. Mais aujourd'hui, derrière chaque fenêtre fermée de la rue Le Bastard, il y a potentiellement quelqu'un en visioconférence ou quelqu'un super concentré sur un dossier complexe, qui subit la même mélopée pour la 5e fois de l'après-midi.
C'est clair que ce qui était autrefois une petite couleur locale charmante est devenu une vraie contrainte psychologique quotidienne.
C'est de la torture à petite dose.
Et les témoignages qu'on a lus montrent une exaspération qui a très largement dépassé le stade du simple agacement. Il y a ce témoignage de Willy, par exemple.
Oui, l'employé du magasin de biens culturels.
C'est ça. Il travaille avec la porte ouverte toute la journée. Et il résume le sentiment général d'une manière assez brute. Il dit que l'artiste, à force d'être ancré là, croit que la rue est à lui. Le monopole n'est pas seulement sonore, en fait. Il est territorial.
Oui, il refuse de céder sa place à d'autres musiciens, ce qui bloque de fait toute diversité artistique sur ce carrefour précis. C'est son coin, point barre.
Eh bien forcément, cette frustration engendre des comportements extrêmes. Les rapports sont hyper factuels là-dessus, le dialogue est complètement rompu entre les deux camps. Rodrigue lui-même affirme avoir essuyé des insultes.
Il y a même eu des crachats jetés depuis les fenêtres au-dessus de lui.
Des crachats, sérieux? On en est là?
C'est violent, ouais. Lui, il essaye de dédramatiser avec des petites boutades. Il dit qu'il aurait, je cite, « dû prendre un parapluie ». Mais le fait est là, on en arrive à des vraies agressions physiques. C'est la faillite totale de la cohabitation urbaine.
Et d'ailleurs, un des documents d'analyse va encore plus loin et pose le problème en termes purement économiques. Et ça, j'avais pas du tout vu venir cet angle-là.
Ah oui, l'argument de l'équité.
Il fait remarquer que l'artiste utilise la rue comme son fonds de commerce personnel. Il capte le flux des clients, mais il ne paie pas le moindre loyer commercial, ni les charges que la boutique juste derrière lui doit acquitter religieusement tous les mois.
Et ça, c'est l'argument invisible du débat public, en fait. Une terrasse de café, elle paie une redevance au mètre carré pour pouvoir privatiser un petit bout de trottoir. Un magasin paie une taxe foncière hyper élevée pour être situé dans une artère passante.
Donc, l'occupation perpétuelle d'un espace public par un seul individu pour générer un revenu, ça pose inévitablement la question de l'équité territoriale.
C'est ça.
C'est vraiment intéressant comme point de vue. Prenons une image pour bien visualiser la mécanique. Imaginons qu'un beau dimanche de printemps, il y a quelqu'un qui installe un stand de crêpes gratuit au beau milieu d'un parc public.
Un stand de crêpes gratuit ? Moi, je suis pour.
Bah oui, sur le moment, tout le monde trouve ça génial. Ça anime le parc, ça sent bon, c'est super convivial.
Mais bon, si cette même personne ne laisse son stand au milieu du parc, exactement à la même place, jour et nuit, pendant des mois et des mois...
Exactement. Au bout d'un moment, c'est plus du tout un parc public qui accueille une animation sympa. Le terrain est de facto privatisé par le vendeur de crêpes.
L'habitude a remplacé la loi, quoi.
Voilà. La question se pose alors inévitablement. À partir de quel moment la présence continue d'un individu dans l'espace public devient-elle une confiscation pure et simple de cet espace au détriment du collectif ?
Et cette interrogation, qui est à la fois philosophique et juridique, bah, c'est la mairie qui se la prend de plein fouet. La ville de Rennes se retrouve dans la position super délicate de l'arbitre qui doit faire respecter le fameux contrat social.
Pas facile comme rôle.
Vraiment pas.
Parce que d'un côté, on a l'image culturelle, qui est défendue par 5000 signataires qui sont extérieurs au quartier. Et de l'autre, on a la santé mentale et l'équité économique d'une trentaine de riverains et de commerçants.
Et c'est là que l'intervention politique devient nécessaire. Pas pour interdire l'art, mais bien pour le réguler.
C'est ça.
Mais alors, comment les élus locaux s'en sortent face à ce vrai champ de mine ? Je pense notamment à Didier Le Bougeant et Rosène Indreau, qu'on voit beaucoup dans les sources. Parce qu'en lisant leurs déclarations, on sent bien qu'ils marchent sur des œufs.
Ah ben, ils sont en équilibre précaire. Condamner un artiste de rue, c'est un peu trahir l'ADN festif et étudiant dont Rennes se revendique hyper fièrement.
Mais leur stratégie de communication est assez habile, en fait. Parce qu'ils séparent très clairement la forme du fond. Sur la forme, ils font un monde honorable. Ils admettent publiquement une certaine maladresse dans le processus.
Ouais, l'arrêté est sorti de nulle part.
C'est ça, il est sorti brusquement, sans véritable concertation préalable avec les syndicats d'artistes ou les musiciens locaux, ce qui a naturellement braqué tout le monde. C'était une belle erreur de méthode.
Mais sur le fond ?
Sur le fond, la mairie ne recule pas d'un seul millimètre. Les élus rappellent une donnée démographique qui est juste massive. L'hypercentre rennais, c'est pas qu'un joli décor de théâtre pour les touristes. C'est un vrai quartier résidentiel où vivent 21 000 personnes.
21 000 personnes, c'est la taille d'une petite ville entière, en fait.
Exactement. Et d'ailleurs, ils introduisent un concept assez contre-intuitif pour justifier leur arrêté de restriction. Au lieu de parler de contrainte, ils parlent de liberté d'expression.
Alors ça, en lisant ça la première fois dans les documents, je me suis vraiment demandé s'il n'y avait pas une faute de frappe du journaliste. Comment une règle qui limite ton temps de jeu à une heure et qui t'oblige à déménager à 200 mètres, comment ça peut garantir la liberté d'expression ? C'est le monde à l'envers.
Bah, c'est une logique de gestion de la rareté. L'espace public premium, tu sais, celui où le public est très nombreux et généreux, il est extrêmement limité dans une ville.
C'est sûr qu'il n'y a pas 50 carrefours parfaits.
Voilà. Donc, si un seul artiste occupe le meilleur carrefour de toute la ville pendant 6 heures d'affilée, il crée un monopole de fait. En instaurant une règle de rotation stricte d'une heure, la mairie vient casser ce monopole informel.
Ah, je vois.
Elle libère cet emplacement pour 5 autres artistes dans la même journée. Donc, la contrainte imposée à l'individu est présentée comme la garantie de l'expression pour la diversité artistique globale.
C'est un peu l'application urbaine du fameux « la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres », mais avec un chronomètre en main, quoi.
C'est exactement ça.
Mais bon, la théorie politique, c'est super sur le papier, la réalité du terrain, c'est autre chose. Comment on fait appliquer une règle pareille sans transformer le centre-ville en une gigantesque partie de cache-cache entre la police municipale et les joueurs de guitare ?
Bah, la répression pure, c'est justement l'écueil que la ville veut à tout prix éviter. Certes, les documents confirment que la police municipale a fait des petites rondes au début. Ils sont même allés jusqu'à rappeler formellement à Rodrigue l'existence du décret et les risques d'amende.
Donc, la menace planait vraiment ?
Oui. La base légale pour sévir, elle est là, elle existe. Mais bon, transformer un chanteur sexagénaire en martyr verbalisé, ça ferait un désastre absolu en termes d'image pour la ville.
C'est clair.
Donc, la municipalité a opté pour une approche beaucoup plus moderne de la résolution de conflits, la médiation.
Ok, donc on sort du rapport de force pur et dur pour entrer dans la diplomatie locale.
Tout à fait. La ville a mandaté une association tierce qui est spécialisée dans la médiation urbaine. Et l'idée est vraiment brillante parce qu'elle décentre totalement le conflit.
Comment ça ?
Bah, au lieu d'avoir un affrontement direct et stérile, genre mairie contre artiste ou riverain contre artiste, on introduit des professionnels neutres au milieu de tout ça. Leur rôle, c'est pas de faire la morale aux uns aux autres, mais de recréer du lien là où les gens ne communiquent plus par insultes et crachats interposés.
C'est de la thérapie de quartier, en gros.
Un peu, oui. L'objectif, c'est de trouver un consensus, de bâtir une sorte de charte de bonne conduite invisible qui satisferait tout le monde, sans avoir besoin de dégainer les carnets à souche de la police.
C'est fascinant de voir comment une simple chaise en bois peut déclencher toute cette logistique. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final pour nous tous ? Au-delà de l'anecdote purement rennaise, cette pile de sources nous livre une réflexion assez vertigineuse sur ce qu'est devenue la ville moderne, en fait.
Absolument.
Le cahier des charges d'un maire aujourd'hui, ça relève de l'exploit permanent. On exige qu'un centre-ville soit à la fois une galerie commerciale à ciel ouvert pour soutenir l'économie, un lieu de spectacle permanent et gratuit pour attirer les touristes, et en même temps, un quartier résidentiel aussi paisible qu'un petit village pour ceux qui y dorment ou y télétravaillent.
Le tout condensé sur les mêmes quelques milliers de mètres carrés.
C'est mission impossible. Et l'arrêté municipal contesté n'est finalement que la reconnaissance administrative d'une évidence physique. L'espace public est une ressource finie, elle est épuisable, tout comme l'eau ou l'électricité. Et donc, bah, il faut la rationner.
Et le rationnement du espace, c'est vraiment le grand défi urbain du XXIe siècle. La densité démographique nous contraint à repenser nos interactions fondamentales. Le vieux principe selon lequel l'espace public appartient à tout le monde, il prend un sens tout nouveau aujourd'hui.
C'est-à-dire ?
Puisqu'il appartient à tout le monde, personne ne peut s'arroger le droit de le privatiser par un usage intensif. C'est ça la clé. Le commerçant ne peut pas étaler toute sa marchandise au beau milieu de la chaussée. Le riverain, lui, ne peut pas exiger un silence de cathédrale en plein midi un samedi. Et l'artiste ne peut pas y établir sa résidence perpétuelle.
C'est l'art complexe de la friction tolérable.
C'est joliment dit.
C'est un exercice intellectuel qui est extrêmement riche que cette plongée nous invite à faire. D'ailleurs, la prochaine fois qu'on se promène dans une rue piétonne, qu'on s'arrête devant un cracheur de feu, un jongleur ou un musicien, et qu'on se laisse porter par l'ambiance festive, y a un petit mouvement très simple à effectuer.
Lequel ?
Il suffit juste de lever la tête vers les façades.
Ah oui, très juste.
Derrière l'une de ces fenêtres du premier étage, il y a très probablement quelqu'un qui est en train de saturer. Quelqu'un pour qui ce moment de poésie éphémère ressemble à la répétition interminable d'un vrai cauchemar sonore.
C'est sûr.
Et savoir adopter ce point de vue invisible, comprendre que chaque note jouée dans la rue a une répercussion derrière un double vitrage, c'est la condition indispensable pour saisir la véritable mécanique de nos espaces partagés.
Mais tu sais, si l'on relie ça à une vision encore plus globale de l'évolution de nos villes, il y a un phénomène troublant qui émerge depuis quelques années et qui amplifie énormément ce genre de conflit.
Ah bon ? Quoi donc ?
C'est la tendance lourde de l'urbanisme européen, la piétonnisation massive. On repousse les voitures hors des centres historiques. L'idée, c'est de réduire la pollution atmosphérique, évidemment, mais aussi dans l'espoir de créer des espèces de havres de paix sonore. Et Rennes est d'ailleurs hyper avancée sur ce point-là.
Bah oui, en théorie, enlever les moteurs des rues, c'est censé apaiser la ville, non ?
En théorie, oui, totalement. Mais en pratique, le retrait des voitures supprime un élément acoustique crucial dont on parlait tout à l'heure.
Le bruit blanc.
Oui, le fameux bruit de fond. Voilà. Le ronronnement continu des moteurs et le frottement des pneus sur le goudron, ça crée une couverture sonore homogène. C'était un masque auditif qui nivelait un peu tous les autres bruits.
Et en enlevant ça ?
En éliminant cette nappe sonore globale, on a accidentellement mis en exergue chaque son individuel. La moindre voix humaine un peu forte, les talons sur les pavés, un éclat de rire à 2h du mat, et bien sûr la musique d'un artiste de rue. Tout ça perce désormais le silence avec une netteté redoutable.
C'est fou quand on y pense.
Paradoxalement, en rendant nos villes moins bruyantes technologiquement, on a rendu nos oreilles infiniment plus sensibles et donc plus intolérantes aux bruits humains normaux de la vie en société.
C'est une réflexion super provocatrice et fascinante pour conclure. Le silence absolu est-il vraiment le but ultime d'une ville qui se veut vivante ? C'est la vraie question. On est parti d'une simple chanson qu'on imagine tourner en boucle jusqu'à l'obsession pour finalement réaliser que la survie de nos centres-villes ne dépendra pas de notre capacité à éteindre la musique.
Non, mais plutôt de notre volonté collective d'apprendre à en partager la mélodie.
Exactement. Merci d'avoir suivi cette exploration avec nous et à très bientôt pour un nouveau décryptage des dynamiques invisibles qui nous entourent.